Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition de lundi 24 juin 2024. Au Niger, enlèvement du préfet de Bilma par un groupe rebelle qui exige la libération de Mohamed Bazoum, le président déchu. Au Burkina Faso, le journaliste d'investigation Atiana Serge Oulon, enlevé.
Ils ont dit que nous sommes vos collègues. Soit dit en passant que la femme de Serge aussi est du métier. Et donc, il dit, mais vous relevez de quel commissariat si vous êtes mes collègues? Ils ont dit qu'ils sont de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. On ne sait pas où ils l'ont amené.
Wizin Louis Oulon, le grand frère du journaliste enlevé, nous en dira plus dans la partie magazine. En Côte d'Ivoire, les pluies diluviennes ont fait au moins 24 morts en 10 jours. Au Kenya, le président William Ruto a rendu visite au contingent de policiers qui s'envolent demain, mardi, pour Haïti. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, est à Washington pour discuter de la prochaine phase de la guerre à Gaza sur fond d'escalade avec le Hezbollah libanais. Et puis ne manque pas notre page pour ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. 10 opposants maliens à la junte ont été placés en détention aujourd'hui dans la capitale Bamako pour complot contre les autorités légales et réunion illégale après avoir appelé à un retour des civils au pouvoir. Parmi les 10 incarcérés figurent des présidents de partis et mouvements politiques signataires d'une déclaration publiée le 31 mars par leur coalition et appelant la junte à rendre le pouvoir aux civils. Ces opposants faisaient partie d'un groupe de 11 personnes arrêtées le 20 juin alors qu'ils se réunissaient à Bamako. Parmi eux, un ancien ministre de la Justice, Mohamed Ali Bathily, a été relâché samedi. Au Niger, le préfet du département de Bilma, dans le nord du pays, a été enlevé vendredi dernier après l'attaque de sa délégation qui revenait d'une mission. L'acte n'a pas été revendiqué, mais pose la question de la sécurité dans cette partie du pays connue pour son instabilité depuis des années. Les précisions avec notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa.
Le communiqué du ministère de l'Intérieur rendu public au lendemain de l'attaque fait état d'un guet-apens à hauteur du village d'Eguer, situé à 17 km de Bilma dans l'extrême nord-est du pays, tendu par des bandits armés. Malgré une résistance héroïque, poursuit le dit communiqué, le préfet et sa délégation ont été submergés et pris en otage. Un des éléments de la sécurité est décédé, un autre a été grièvement blessé avant que les assaillants ne repartent avec le préfet et 4 autres personnes ainsi qu'un de leurs véhicules. Des poursuites ont été engagées pour les rattraper et libérer les otages. L'enlèvement de cette autorité locale de la région d'Agadez, qui n'a pas encore été revendiqué, est intervenu alors que des travaux d'exploitation de blocs pétroliers de la zone de Bilma par la société nigérienne des produits pétroliers Sonidep étaient sur le point d'être lancés. La zone est par ailleurs théâtre des activités d'un front dit patriotique de libération dirigé par un proche du président déchu. Le mouvement créé un mois après la chute de Mohamed Bazoum a revendiqué récemment l'endommagement d'une partie de l'éoloduc transportant le brut nigérien. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, au moins 24 personnes sont mortes en 10 jours à Abidjan après un début de saison de pluie intense. C'est ce qu'a annoncé l'Office national de la protection civile, Rosine Monizero.
Après des pluies diluviennes du jeudi 13 au samedi 22 juin sur le district autonome d'Abidjan, l'Office national de la protection civile a fait état de 24 décès, d'inondations et de risques d'effondrement d'immeubles. 2 personnes sont par ailleurs portées disparues, emportées par les eaux, précise l'ONPC. Pendant plusieurs jours, des précipitations 4 fois supérieures à la normale se sont abattues sur la capitale économique ivoirienne, provoquant de spectaculaires montées des eaux, des éboulements et des effondrements d'habitations. En 24 heures, il était tombé un quart des précipitations attendues sur l'ensemble des 3 mois de la saison des pluies. Les pluies torrentielles suivies d'inondations sont récurrentes dans la grande ville ivoirienne. Les constructions précaires dans des zones pauvres et inondables sont légion, même si le gouvernement a lancé cette année une vaste politique d'assainissement, détruisant de nombreux quartiers informels.
Les autorités sénégalaises ont mis en place des tests de dépistage volontaire du COVID-19 et réimposé le port du masque à l'aéroport international à l'arrivée des pèlerins après la mort de nombreux fidèles à la Mecque. Les autorités soupçonnent qu'un certain nombre de décès ont pour cause une maladie à syndrome respiratoire comme le Covid-19. Sur 124 tests de diagnostic rapide, 78 ont été positifs au Covid-19, dont 36 ensuite confirmés par test PCR, technique de référence pour la détection de l'infection, a dit le ministre de la Santé, Ibrahim Assi, dimanche lors d'une visite à l'aéroport international de Diamniadio. Le président kenyan William Ruto a rendu visite aujourd'hui au premier contingent de 400 policiers qui s'envolent demain mardi pour Haïti dans le cadre d'une mission internationale d'aide aux forces de sécurité de ce pays caribéen en proie à la violence des gangs. Alexandrine Nolognon nous en dit plus.
Le président William Ruto s'est rendu dans les cantonnements des forces d'élite de la police pour une cérémonie à huis clos. Le contingent kenyan sera composé de policiers d'élite, des membres de l'unité de déploiement rapide, de l'unité anti-vol de bétail et de l'unité de patrouille aux frontières. Le Kenya doit envoyer un millier d'hommes en Haïti. D'autres pays doivent aussi contribuer à cette force, comme le Bénin, le Bahamas, le Bangladesh, la Barbade ou encore le Tchad. Cette mission d'appui à la sécurité prévue pour une durée initiale d'un an devra soutenir la police haïtienne dans ses opérations contre les gangs et la criminalité. Au Kenya, l'opération suscite de vives critiques. Un parti d'opposition a déposé mi-main un nouveau recours accusant le gouvernement d'outrage de poursuivre une mission jugée inconstitutionnelle, illégale et invalide par un jugement du 26 janvier.
Au Rwanda, une bousculade a fait un mort et 37 blessés dimanche à Rubavu. C'est dans le nord-ouest du pays. L'incident s'est déroulé lors d'un meeting du parti du président Kagame. À 3 semaines d'une élection présidentielle, 9 millions d'électeurs sont inscrits pour l'élection présidentielle, pour la première fois couplée avec des législatives. En Afrique du Sud, l'ANC majoritaire au Parlement a condamné aujourd'hui les demandes farfelues et scandaleuses de postes ministériels de certains partis qui ont fuité ces derniers jours dans la presse, alors que les tractations sur la composition du prochain gouvernement sont toujours en cours. Près d'un mois après le scrutin, aucune information officielle sur le nombre de portefeuilles qui iront à l'opposition n'a été dévoilée, mais la presse locale a fait état ces derniers jours de tensions dans les négociations entre l'ANC et la plus grande formation d'opposition, l'Alliance démocratique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Kremlin a menacé ce lundi les États-Unis de conséquences au lendemain d'une frappe ukrainienne en Crimée, selon Moscou, à l'aide d'un missile américain et a accusé les Occidentaux de tuer des enfants russes. La diplomatie russe a donc convoqué l'ambassadrice américaine à Moscou afin d'être prévenue de prochaines mesures de rétorsion. Des bombardements ont visé aujourd'hui la bande de Gaza après l'annonce par le premier ministre israélien que la phase intense des combats touchait à sa fin, notamment à Rafah. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, est arrivé à Washington pour des entretiens sur la situation. Mohamed Oumfa.
La phase intense des combats contre le Hamas est sur le point de se terminer. Cela ne signifie pas que la guerre est sur le point de finir, mais sa phase intense est sur le point de se terminer à Rafah, a affirmé Benjamin Netanyahou dimanche. Ce lundi au Parlement, il a assuré être attaché à la proposition israélienne que le président Joe Biden a approuvée. Le plan présenté fin mai par le président américain, proposé selon lui par Israël, prévoit un cessez-le-feu de 6 semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages, notamment des femmes et des malades, et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Ce plan vise à établir un cessez-le-feu permanent dans une phase ultérieure, à condition que le Hamas respecte ses engagements, selon M. Biden. Alors que la relation entre M. Netanyahou et les États-Unis connaît des crispations après des critiques israéliennes sur des retards de livraison d'armes américaines, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, est arrivé à Washington pour des entretiens qu'il a qualifiés de cruciaux pour la suite de la guerre.
L'ONU a présenté aujourd'hui ses grands principes pour l'intégrité de l'information, destinés principalement à lutter contre la désinformation en ligne, en repensant notamment le modèle publicitaire des plateformes et réseaux sociaux, alors que certains États sont accusés d'être eux-mêmes des sources de campagnes de désinformation. Le document se penche particulièrement sur les grandes entreprises de la tech qui permettent la propagation de ces messages, comme les réseaux sociaux et moteurs de recherche. L'ONU les appelle à s'abstenir de diffuser de fausses informations et discours de haine, renforçant en particulier les mesures pour garantir l'intégrité de l'information lors des campagnes électorales. Et puis la Chine craint que la récente visite à Pyongyang du président russe Vladimir Poutine encourage la Corée du Nord à déclencher une crise régionale, a déclaré aujourd'hui un haut responsable américain. Le secrétaire d'État adjoint Kurt Campbell, numéro 2 de la diplomatie américaine, a indiqué que la Chine avait fait part de son anxiété à ce sujet. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mohamed Oumfa.
La SONIDEP, société nigérienne du pétrole, a lancé samedi ses premières opérations de prospection et d'exploitation à Haïdara, dans l'est du pays, où une entreprise chinoise exploite l'or noir depuis 2011. Depuis sa création en 1977, la SONIDEP est essentiellement cantonnée à la commercialisation des produits pétroliers. Le Niger raffine depuis 2011 quelques 20 000 barils par jour, essentiellement du gasoil et de l'essence à Zinder, dans le centre-est du pays. Le gouvernement ghanéen a annoncé lundi qu'il a conclu un accord de principe avec des groupes de détenteurs d'obligations pour restructurer sa dette internationale. Selon cet accord, les détenteurs d'obligations renonceraient à environ 4,7 milliards de dollars de leurs créances et fourniraient un allègement de trésorerie d'environ 4,4 milliards de dollars pendant la durée du programme du Ghana auprès du FMI. La Banque mondiale a annoncé lundi une aide budgétaire de 700 millions de dollars pour l'Égypte dans le cadre d'un programme triennal de 6 milliards de dollars qu'elle s'était engagée à mettre en place au début de l'année. Les 700 millions de dollars sont destinés à aider l'Égypte à stimuler la participation du secteur privé, la résilience macroéconomique et fiscale et une trajectoire de croissance plus verte, a déclaré la banque dans un communiqué.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Athlétisme pour commencer. À un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques, les athlètes africains s'activent lors des championnats d'Afrique à Douala au Cameroun.
Oui, ces Jeux représentent l'une des dernières chances pour les athlètes qui veulent valider leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris. Hier en finale du 400 mètres, le Sénégalais Cheikh Diouf s'est offert l'or chez les hommes et la Sud-Africaine Miranda Kwezi s'est imposée chez les dames. Le 400 mètres haies a été remporté par le Botswanais Victor Swing, les 800 mètres hommes et dames par les Kenyans Alex Kipchich et Sarah Orobi. L'Ougandais Leonard Shimutai a fini en or sur le 3000 mètres steeple homme. Enfin, en saut en hauteur, l'Algérienne Darina Adil Rizik a été couronnée, tout comme la Nigériane Brumi Issé, vainqueur du saut en longueur.
Justement, ici aux États-Unis, Noah Lyles reste le patron du 100 mètres et envoie un message avant les Jeux.
Le champion du monde a remporté avec brio le 100 mètres des sélections olympiques américaines à Eugene dans l'Oregon. Noah Lyles s'est imposé en 9 secondes 83, égalant son record devant Kenny Bednarik, habituel spécialiste du 200 mètres et le vice-champion olympique Fred Akerley, tous les trois se qualifiant pour le 100 mètres au JO. Le champion du monde 2019, Christian Coleman, quatrième, est victime de la densité du sprint américain et devra se contenter dans un peu plus d'un mois du relais 4 x 100 mètres à Paris après avoir déjà manqué les Jeux de Tokyo en 2021 lorsqu'il était suspendu pour manquement à sa localisation antidopage. Lyles doit encore valider sa qualification sur 200 mètres. Les sélections américaines continuent jusqu'au 30 juin.
Football avec l'Euro 2024, l'Allemagne finit en tête de son groupe.
Après avoir évité de justesse la défaite face à la Suisse lors de la troisième journée hier, une Mannschaft un peu inspirée a obtenu sur le fil un nul, un but partout pour finir première du groupe A avec 7 points, 2 de plus que la Suisse qualifiée aussi pour les huitièmes de finale. Avec 3 points, la Hongrie, vainqueur 1-0 de l'Écosse en toute fin de match, pourrait aussi se qualifier en tant que meilleur troisième. Deux matchs au programme ce lundi dans la poule B. Déjà qualifiée, l'Espagne joue l'Albanie à Düsseldorf et la Croatie et l'Italie s'affrontent au stade de Leipzig.
Autre compétition, la Copa América qui se joue ici aux États-Unis. Début convaincant pour l'Uruguay et les États-Unis.
À Miami, devant plusieurs milliers de supporters, l'Uruguay a dominé le Panama 3-1. L'avant-centre de Liverpool, Darwin Núñez, a doublé la mise d'une reprise du gauche à la 85e, avant que le défenseur Matias Vina ne corse l'addition. L'Uruguay confirme ainsi son statut de favori, mais devra se méfier des États-Unis, portés par leur capitaine Christian Pulisic, qui ont eux aussi réussi leur entrée dans la compétition à domicile face à la Bolivie. Team USA a battu la Bolivie 2-0 dimanche dans le groupe C. La deuxième journée de cette poule C a lieu jeudi. L'Uruguay affronte la Bolivie, tandis que les États-Unis seront opposés au Panama.
Page de sport VO Afrique, signé Yacouba Oudraou.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le directeur de publication du journal d'investigation L'Événement, Serge Atiana Oulon, a été enlevé tôt ce matin à son domicile à Ouagadougou par des hommes en civil se présentant comme des agents de renseignement. Ses ordinateurs et son téléphone ont été saisis selon un membre de la famille. Le journal et plusieurs autres médias sont suspendus pour leur couverture médiatique liée à la junte. Yacouba Ouedraogo a joint à Ouagadougou, voisin Louis Oulon, journaliste et grand frère de Serge Oulon.
Il a été enlevé matinalement à 5h du matin par des individus qui n'ont pas donné leur identité, qui sont repartis avec lui. Et quand j'ai été alerté par son épouse, je me suis dépêché sur les lieux. Malheureusement, quand je suis arrivé, c'était trop tard, il est parti.
Est-ce que vous avez du nouveau depuis qu'il a été enlevé?
Quelques minutes après son enlèvement, moi j'ai reçu un appel et quand j'ai pris, c'était lui, mais c'était pas son téléphone à lui, où il demandait de dire à sa femme de mettre à disposition son téléphone et son ordinateur parce que ses ravisseurs veulent ça. J'ai passé le téléphone à son épouse qui était avec moi déjà. Elle est repartie chez elle parce que moi je l'avais amené avec moi. Ils m'ont rappelé et c'est Serge encore qui était en ligne qui dit que c'est urgent, il faut remettre le téléphone et l'ordinateur. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais on remet le téléphone où il y a un monsieur qui a pris le téléphone. Il menaçait de m'embarquer en même temps que lui. Quelques minutes après, l'épouse est revenue à la maison en larmes, en disant que voilà, ils sont arrivés, ils ont tapé, elle a demandé c'est qui. Ils ont dit que c'est les ravisseurs, ceux qui sont venus le matin l'enlever, qui étaient là. J'ai dit, mais vous n'avez pas d'identité. Ils ont dit, non, que nous sommes vos collègues. Soit en passant que la femme de Serge aussi est du métier. Et donc, il dit, mais vous relevez de quel commissariat si vous êtes mes collègues? Ils ont dit qu'ils sont de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. On ne sait pas où ils l'ont amené.
Il est le directeur de publication du journal L'Événement qui a été suspendu pour une enquête qu'il mène. Est-ce qu'il y a un lien?
On peut dire que c'est possible qu'il y ait un lien, mais moi je me dis sur le plan administratif, s'il y a déjà eu une structure comme le Conseil supérieur de la communication qui l'a entendu, qui a sanctionné, bon, je ne suis pas en train de comprendre pourquoi encore on vient le chercher, mais le contexte n'est pas nouveau. Il n'est pas le premier à être arrêté, il y a eu plusieurs arrestations, mais soit dit en passant qu'il est le premier journaliste à être officiellement arrêté. Pourquoi, on ne sait pas, mais évidemment, l'événement était un peu, on va dire, le dernier rempart aujourd'hui, vu le contexte où beaucoup de journaux sont devenus muets. Je sais aussi qu'il a été entendu au Conseil supérieur de la communication pour la sanction qui avait été prise. Est-ce que c'est une suite de cet article? Est-ce qu'on lui cherche d'autres choses? Pourquoi on recherche son ordinateur et son portable? Est-ce qu'il va être enrôlé comme tout le monde?
On sait pas. On le connaît pour ses points de vue souvent tranchés. Est-ce qu'il évoquait des craintes par rapport à sa sécurité avec vous qui êtes son grand frère?
On échangeait et je lui disais, bon, je ne peux pas le décourager dans ce qu'il fait comme métier, mais l'étau se resserre. Il ne faut pas qu'il soit surpris que ça lui arrive. Ça, on en a parlé.
Quel est le climat des médias aujourd'hui au Burkina Faso?
Les journalistes sont comme égards. J'ai lu une détresse sur les confrères, j'ai lu une détresse sur les responsables des médias. Je sens une sympathie d'une population qui, en fait, veut juste lire des journaux, veut juste suivre une presse. On en a la fierté de présenter par le passé les médias burkinabés, leur professionnalisme, la qualité des hommes et des femmes. Et je ne pense pas qu'on ait perdu en qualité, mais on est en train de museler cette presse-là.
Voisin Louis Oulon, journaliste et grand frère de Serge Oulon, directeur de publication du journal d'investigation L'Événement.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Tchad, les autorités ont démantelé un réseau de présumés arnaqueurs des diplômés sans emploi au titre de la fonction publique. Ce groupe monte des arrêtés d'intégration avec l'entête du ministère pour prendre de l'argent aux jeunes diplômés qui rêvent de trouver un emploi dans la fonction publique. L'un des cerveaux présumés de ce réseau a été appréhendé et présenté au public. André Kodmachinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point dans la capitale tchadienne.
Ce monsieur usurpe les titres de la fonction publique. Il a fait un arrêté sur lequel il y a à peu près 100 quelques noms. Et exige 500 000, 600 000, 700 000. Malheureusement, les gens aussi continuent par donner.
Abdoulaye Mboudoumbami, ministre en charge de la fonction publique, il informe que ce suspect ne s'arrête pas là.
Il a même élaboré un arrêté qui s'est fait nommer lui-même conseiller du ministre du Commerce. Le phénomène d'arnaque ne se pose pas seulement à la fonction publique, mais dans tous les arcanes de l'administration publique. Et j'attire l'attention de la population de Manel de ne plus croire à des appels qui leur arrivent de gauche à droite.
Selon le ministre, 6 autres complices présumés ont été interpellés et transférés à la maison d'arrêt de N'Djamena. Une victime qui a voulu garder l'anonymat témoigne.
Pour l'intégration, entre-temps, je ne connaissais rien. Ils m'ont demandé de leur donner 300 000 francs et qu'après, mon nom va sortir. Je les ai avancé les 300 000 et ils m'ont dit que je ne dois pas mettre l'argent là en banque. Il faut que je les donne en cash. Je les ai remis en cash, je les ai entendus. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu mon nom.
Richard, un jeune diplômé, a failli tomber dans le piège s'il n'avait pas été vigilant.
Je me rappelle une fois, on était ensemble avec les amis autour d'un pot, j'ai reçu un appel. Le type m'a dit qu'il travaille à la fonction publique et que j'ai mon dossier là devant lui. Il faut que je fasse un geste et il va faire glisser mon nom pour que mon intégration puisse sortir. J'ai dit d'ailleurs, de toute façon, tu m'as appelé, c'est pas mon nom d'état civil. Depuis que je suis sorti à l'université, je n'ai pas déposé un bout de papier à la fonction publique vu qu'il y a tellement d'arnaques, il faut donner l'argent pour être intégrer tout ça, moi je me suis désintéressé la chose. Il dit, si tu as 50 000, ça peut faire affaire. J'ai dit, j'ai pas 50 000. Il dit, tu as combien? J'ai dit, je n'ai pas d'argent pour te donner. Il dit, tu vas me rappeler le lendemain? Il m'a pas rappelé, j'ai attendu 2 jours après, je l'ai appelé sciemment. J'ai dit, mais tu m'intègres plus à la fonction publique. Il dit, mais moi je suis pas de bonne volonté, comment il peut m'aider? J'ai dit, non, vous là, on vous connaît, vous êtes des arnaqueurs, vous prenez de l'argent avec les gens, après vous disparaissez, vous changez de numéro par-ci par-là, mais moi tu peux pas me voir. Tu t'as mis, je vais te faire arrêter tout ça là. Il a disparu. Ce numéro, après, quand je cherche à le contacter, ça passe plus.
Selon lui, l'arnaque pour entrer à la fonction publique ne date pas d'aujourd'hui.
C'est un groupe bien constitué qui existe depuis au temps de Maréchal. Quand on parlait même de la porte 7, tout ça là, c'est depuis là-bas. Ils prenaient de l'argent avec des gens. Et il faut reconnaître que la chose est partie même du ministère. Hein. Certains techniciens du ministère là, c'est eux-mêmes qui fabriquent ce truc.
Abdoulaye Mboudoumbami, ministre de la fonction publique, en est conscient.
En plus de ceux qui agissent en dehors de la fonction publique, nous avons aussi suspendu 5 agents suspects. Sur dénonciation, nous les avons suspendus. Nous les avons mis à la disposition de la commission administrative paritaire qui va statuer et ils seront mis aussi à la disposition de la justice.
Empêchés par les autorités d'organiser une marche ce week-end pour exiger leur intégration à la fonction publique, les lauréats des écoles normales supérieures ont décidé d'observer une grève de faim à partir de ce lundi avec sitting devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la fonction publique. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Gabon, 120 tonnes de poissons sont en vente à bas prix à Libreville. Initiative du gouvernement pour soulager les ménages à faible revenu. Mais l'enthousiasme est vite retombé devant la qualité des poissons proposés sur les sites de distribution. Des produits de mer jugés trop petits et pas frais, selon des milliers de clients sortis très tôt ce week-end pour profiter d'une aubaine annoncée. Les explications de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangenze.
Au centre de pêche artisanale de Libreville, une foule est au rendez-vous depuis les premières heures de la matinée. De longues files d'attente pour un événement longtemps annoncé. Les clients à bout de nerfs piaffent d'impatience.
On vient nous faire comprendre qu'on doit attendre une autorité qui doit venir faire un discours, je ne sais pas, d'ouverture ou quoi. Alors que les gens sont là, ils sont venus acheter du poisson, justement, comme c'était dit. Il y a des mamans qui sont là, elles sont assises à même le sol, vous voyez. Hein? C'est comme une humiliation, on humilie le peuple comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Quand est-ce que dans ce pays, on va changer réellement? Quand on parle de changer, on parle de, de restauration. Ce n'est pas ça, restauration.
800 francs CFA, soit plus d'un dollar le kilogramme de poisson. D'ordinaire, ils se vendent entre 1000 et 2000 francs CFA au marché. De quoi susciter des bousculades, mais cette foire au poisson va très vite se transformer en désillusion pour certains clients comme Mopiga.
Il faut d'abord sensibiliser la population, choisir les mamans âgées, mettez-les de côté, les servir d'abord avant. Est-ce que ce qui se passe, une maman tombe pour un kilo de poisson de 800, est-ce que c'est normal? Je ne m'attendais pas à ça. C'est de la sardine et la sardine, elle n'est même pas fraîche, en fait, dessus.
Dans cette ambiance tendue, ceux des ménages qui ont fait le choix des plats du jour à base des produits de mer ont dû se jouer des coudes entre les étals. Pour Gervais, la patience a fini par payer.
Là, j'ai pris 10 kilos.
Et ça suffit pour la journée ou pour quelques jours?
Je n'ai pas de choix parce que la demande est importante, tout le monde va avoir quelque chose. Je vais me contenter de ça, sinon je voulais prendre un peu plus.
En réponse aux critiques des populations, le gouvernement promet une amélioration de la qualité de l'offre. Sidoine Akoubou, directeur de cabinet du ministre gabonais de la pêche.
Nous sommes dans un processus de pêche exploratoire qui nous permet d'évaluer le potentiel halieutique du pays. La zone qui a été choisie nous a donné beaucoup plus. On a eu près de 35% de la sardinette et les 35% sont d'autres espèces. Mais nous avons les bateaux qui sont répartis en mer là et qui vont étendre leur zone d'exploitation. Et nous allons avoir beaucoup, la prochaine fois, plusieurs d'autres espèces qui vont agrandir l'offre sur le marché.
De l'avis général, cette première expérience de promotion du potentiel halieutique du Gabon sous l'ère de la transition enregistre un succès mitigé. Les autorités envisagent dès les prochains mois une nouvelle foire aux poissons ouverte au reste du pays. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le premier des deux débats présidentiels aura lieu jeudi à Atlanta. La rhétorique des candidats sur des sujets sensibles, tels que l'immigration et la condamnation de l'ancien président Donald Trump, échauffe déjà les esprits. Les détails avec Veronica Balderas-Iglesias. Le récit est de Rosine Monizero.
Les Américains doivent attendre jeudi pendant le débat télévisé pour savoir si la condamnation pénale de Donald Trump sera utilisée comme ligne d'attaque par son adversaire démocrate, le président Joe Biden. Mitch Landrieu, co-président de la campagne de réélection de Joe Biden.
Mais il ne s'agit pas seulement de qualifier Donald Trump de criminel, cela touche à son comportement et à son caractère. N'oubliez pas qu'il a fait faillite 6 fois. Cela signifie qu'il n'est pas seulement un mauvais homme d'affaires, cela signifie qu'il a trompé toutes les personnes qui comptaient sur lui pour gagner leur vie.
Trump nie ses accusations. Il a également promis de faire appel. Alors que Joe Biden se prépare à huis clos pour ce débat présidentiel, Donald Trump a choisi de partir en campagne ce week-end. Il a fait des apparitions à Washington et à Philadelphie. Il n'a pas caché son impatience de débattre et a parfois demandé l'avis de ses partisans sur la façon dont il devrait se comporter face à Biden. Donald Trump, candidat républicain à la présidence.
Dois-je être dur et méchant et dire que vous êtes le pire président de l'histoire ou dois-je être gentil et calme et le laisser parler? ? 50-50, être dur.
Le présumé candidat républicain a aussi profité du rassemblement de samedi pour appeler aux électeurs sa position sur les immigrés sans papier, Donald Trump.
Et dès le premier jour, nous commencerons la plus grande opération d'expulsion nationale de l'histoire américaine. Nous n'avons pas le choix.
Monsieur Biden a récemment mis en place des restrictions en matière de traitement des demandes d'asile à la frontière sud, mais il a également dévoilé la semaine dernière une mesure qui ouvrirait la voie de la citoyenneté aux conjoints sans papier de citoyens américains. Lors de son apparition sur NBC, le coprésident de la campagne de Joe Biden a accusé Trump et les républicains pour le statu quo. Mitch Landrieu, coprésident de la campagne Biden-Harris.
La frontière est en difficulté et c'est le cas depuis 20 ou 30 ans. Dès le premier jour, Joe Biden a envoyé au Congrès une proposition des réformes globales de l'immigration. Ils n'en ont rien fait.
Outre l'immigration, on s'attend à ce que Biden et Trump répondent à des questions sur plusieurs autres sujets épineux lors du premier débat présidentiel qui sera organisé le 27 juin à Atlanta.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.